André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Le 27 novembre dernier, nous avons diffusé une première émission sur les deux artistes duettistes Jean Poiré et Michel Serrault. Voici aujourd'hui la deuxième partie, alternant la biographie des deux acteurs et des extraits de leurs œuvres, lus par nos deux comédiens, Françoise Bénard, bonjour Françoise.
Bonjour André.
Et Philippe Merlan.
Bonjour. Bonjour. Philippe.
Content de nous retrouver pour poursuivre cette recherche sur la vie et l'œuvre de Poiré et Serrault. Et poursuivons pour commencer avec Jean Poiré, qui fut un élève discret, médiocre, avec de grandes carences en mathématiques. À 14 ans, il décide d'arrêter l'école au moment où les soldats allemands entrent dans Paris. Ses parents acceptent de prendre en compte sa doléance. Que souhaite-t-il faire ? Artiste. Sur scène, pas au cinéma, il a déjà tracé son plan de route qui devait le conduire tout droit à la Comédie-Française. Ses parents l'écoutent. Au lieu de courir après un rêve impossible, il serait préférable de viser une situation moins prestigieuse mais plus sûre. Ils le convainquent donc de suivre des cours dans une école complémentaire, section commerciale. Cela lui permettra d'entrer d'une manière ou d'une autre dans les affaires. Ainsi, après avoir quitté l'école, il revient à l'école. Il s'ennuie, il ronge son frein. Un autre élève ronge aussi son frein, Pierre Gallon. Et ils partagent tous les deux leur passion, l'envie de devenir comédien et l'amour des grands airs d'opéra. Ils sympathisent et font des rêves en commun. Élève commercial sans avenir, il n'en demeure pas inactif. Il apprend que le théâtre de l'Atelier fait passer des auditions. Il prépare un rôle. Il choisit le personnage d'Alceste dans Le Misanthrope de Molière. Le jour de l'audition, il n'y a pas de comédienne pour lui donner la réplique. Une actrice d'un âge avancé lira la brochure en chevrotant. Il se retient de rire. La situation est bouffonne. Il tente de défendre son rôle. À la fin de l'audition, on lui annonce de commencer par le commencement. En 1941, les autorités vichysoises constate que les deux cours privés censés préparer au conservatoire de musique et une déclamation sont trop coûteux. D'où la création, le 15 avril, du centre de formation professionnelle du spectacle et il veut y entrer. Il se risque tout d'abord de se présenter au concours d'entrée du conservatoire. Il a choisi une scène, Angelo, le tyran de Padoue, prose de Victor Hugo. Il n'est pas un grand tragédien. Sans surprise, il est recalé. Parallèlement, décrocher son ticket d'entrée au centre du spectacle ressemble à une simple formalité. L'épreuve consiste à réciter une fable de La Fontaine. Pour peu que l'on ne bafouille pas trop et que l'on sache se tenir en scène, c'est gagné. Et c'est effectivement gagné pour Jean Poiré. Ses professeurs l'orientent vers Jean Le Goff, qui s'occupe de la classe préparatoire. En novembre 1941, Jean Poiré entre dans la carrière, il ne la quittera jamais. Le centre regroupe une centaine d'élèves venus de tous les horizons. Certains s'y sont réfugiés pour échapper au service du travail obligatoire. Une troupe joyeusement disparate où y figurent Charles Aznavour, José Arthur, Mouloudji, Jacques Legras, Juliette Gréco, Jean Le Poulain. Le directeur artistique est Pierre Sabag. Il est là pour rappeler que l'école est placée sous la férule de Vichy, levée des couleurs, tous les matins, en entonnant « Maréchal, nous voilà ». Il préférait jouer les raisonneurs plutôt que les amoureux. En dépit de son choix, il n'était pas à l'aise dans cet emploi. Son physique, son allure, son phrasé ne correspondaient pas à celui d'un raisonneur. Il n'avait pas de vrai emploi alors qu'il avait le talent de tous les emplois. L'étape suivante, Jean Poiré intègre la classe de Julien Berthaud, qui deviendra son mentor. L'un de ses talents est de deviner le véritable emploi de ses élèves, celui pour lequel ils sont faits. Le cas Poiré l'intéresse. et lui dit un jour « Tu sais, Jean, mon sentiment est que tu feras rire. » Il fréquente les cours de diction et de littérature dramatique de Pierre Dux, ceux d'expression corporelle de Jean-Louis Barrault, et se rend parfois chez Jean de Bucourt. Ainsi se profile sa première année. Voici la première partie d'un sketch de Jean Poiret et Michel Serrault, intitulé « Le spécialiste ou le docteur en doigt ». Voici ce que Poiret en dit. Le public est toujours en quête de rire. Dans une vie où tout nous échappe, prendre le temps de rire est devenu une nécessité pour ne pas sombrer dans la morosité. Le docteur en doigt, ça c'est Serrault qui en parle, le docteur en doigt est une petite charge contre l'exercice de la médecine par des spécialistes, lesquels à l'époque bénéficiaient d'un engouement qui les faisait s'afficher de plus en plus spécialistes et de moins en moins médecins. Donc, voilà l'extrait du docteur en doigt.
Bonsoir, bonsoir. Entrez donc.
Non, non, je ne veux pas vous déranger. Je vois que vous avez du monde.
Non, ne soyez pas timide, allons, allons. C'est moi qui vous ai fait la proposition. Vous avez bien 5-10 minutes pour bavarder avec moi.
Bien sûr, oui.
Et hélas, je n'ai rien à vous offrir.
Ah, c'est pas grave. Faites donc comme d'habitude. Ne m'offrez rien.
Bon, alors comme ça, ça va. En tout cas, si vous voulez vous mettre à votre aise, ne vous gênez pas, vous faites comme chez vous, c'est à la bonne franquette.
Ah, ben ça, ce n'est pas de refus, je veux bien. Si vous avez des chaussons...
Ah non, 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 vous n'êtes pas un peu fou, vous n'allez pas vous déchausser ici, je vous demande de vous mettre à votre aise, mais pas de...
Alors ne me demandez pas de me mettre à mon aise, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire?
Je vous trouve bien nerveux. Qu'est-ce que vous avez, vous? Vous êtes fatigué? Vous êtes malade?
Oh, un peu de surmenage.
Un peu de surmenage? Beaucoup de surmenage.
Je vais vous dire, c'est la vie qu'on mène à Paris.
Mais vous n'habitez plus Paris. C'est vous-même qui me l'avez dit il y a 3 mois, la dernière fois que je vous ai vu. Ne soyez pas de mauvaise foi. Vous m'avez fait voir un bail, vous m'avez dit, ça y est, je pars en province, je déménage, je fais un échange. Vous m'avez bien dit ça.
Oui.
Alors?
Eh bien, ça ne s'est pas fait.
On ne sait jamais sur quel pied danser avec vous. Ça fait 10 ans que je vous connais.
Oui.
Mais alors, vous habitez toujours le même coin? Vous n'avez pas changé?
Mais toujours le 122e arrondissement.
Le
toujours.
122e?
Le 122e arrondissement, mais oui.
C'est quel quartier, ça?
Mais c'est à côté de Brest.
C'est vrai qu'ils ont bien étendu Paris ces derniers temps. Ah, je ne pensais pas qu'ils en étaient arrivés à Brest. Mais je savais bien qu'il y avait une poussée vers l'ouest.
Oui, bah, ils ont eu raison, car comme ça, les provinciaux qui voulaient s'établir dans la capitale sont devenus parisiens sans avoir à se déranger.
Ah oui, c'est mieux pour tout le monde, hein, quand on peut.
Seulement, oui, faire tous les jours 900 km pour venir travailler et retourner chez soi, alors ça, je vous dis, ce n'est pas possible.
Je me doute. Vous faites comment? En voiture?
Bah oui, quand même. Mais bien entendu, je la laisse en dehors de la zone bleue.
Nous en sommes tous là.
Avant d'arriver au Mans.
Avant d'arriver au Mans?
Au Mans, oui.
Bah, ça vous fait une bonne balade quand même.
Oui, je fais le reste à pied. Je vais vous dire, les 8 premiers jours, ça a été à peu près. Mais alors maintenant, franchement, je ne tiens plus le coup.
Eh oui.
Sur les genoux.
Voilà la réflexion que j'attendais. On ne se rend pas compte. Mais les conditions de vie sont devenues telles que le corps humain ne répond plus, vous comprenez? Il y a des choses que l'on pouvait se permettre il y a encore 10 ans, qu'on ne peut plus se permettre à l'heure actuelle.
Oui, parce qu'on a 10 ans de plus.
Oui. D'une part, on a 10 ans de plus, et puis, je vais vous dire, hein, ce sont les conditions de vie qui ne sont plus les mêmes. C'est l'air, cet air qu'on respire, cet air vicié, cet air oppressant.
Oui. Moi, je sens mes forces diminuer de jour en jour. Hein. Alors, j'ai été consulté, parce que je me suis dit, il faut quand même que je sache ce qu'il en est.
Et vous avez raison. On ne peut pas badiner avec ces choses-là, parce qu'un beau jour, on se retrouve sur le flanc. Il faut faire très attention. Parce que vous ressentiez des malaises?
Oui, des malaises. Alors ce sont des...
Des troubles presque. Hein.
Oui, enfin ce sont des vertiges, ce sont des migraines.
Oh ça c'est moche.
Et alors une lassitude générale.
Ah c'est moche. Un peu d'anémie.
Je pense, oui.
Et vous maigrissez?
Oui, je maigris bien, oui.
Oh, vous perdez beaucoup de poids?
Oui, oh là là.
Combien?
18 kilos par an.
Mais vous vous rendez compte de ce que ça représente? Vous dites ça calmement.
Oui, heureusement que ce sont toujours les mêmes.
Ah d'accord. Alors, vous me rassurez, parce que je croyais que vous les perdiez régulièrement. Ah, c'est pour ça que ça me faisait peur.
Ah non, 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 régulièrement, n'exagérons pas. Hein. Alors, 18 kilos par an depuis 12 ans, bah, déjà on serait à moins 134 alors.
Hein. Oh, ça ferait trop.
Hein. Non, c'est pas possible.
Ah, je faisais pas le calcul.
Oui, alors je vous dis, j'ai été consulté.
Et qui avez-vous vu?
Alors, j'ai été voir le docteur Carlin.
Ah oui, il fait la médecine générale?
Il faisait la médecine générale, parce que maintenant, il s'est spécialisé.
Ah bon?
Il ne fait plus que le doigt, maintenant.
Ah, je ne savais pas.
Ouais. Il est spécialiste du doigt.
Ah, j'ignorais.
Ah, si. Il est docteur en doigt, ça y est.
Allez, première nouvelle. Oh non, il a abandonné tout le reste, alors? Il ne fait plus que le doigt.
Non, attention, quand je dis que le doigt, il ne fait que l'auriculaire.
Juste le petit doigt?
Oui, que le petit doigt. Et encore quand le malade l'intéresse.
D'accord. Et son diagnostic est venu confirmer vos craintes? Il vous a dit que ça venait de là?
Absolument, absolument. Mmh. Il m'a dit en effet que mon auriculaire était un petit peu déficient. Ça, il me l'a dit en arrivant. Mais
enfin, vous n'auriez pas maigri 18 kilos, rien que de l'auriculaire quand même.
C'est la question d'ailleurs qui se posait. Vous voyez. Alors j'ai été le voir et il m'a reçu très gentiment. Il est très chic.
Ah oui, oui. J'ai été soignée par lui trois ans et demi. Je n'ai qu'à me louer de ses services.
Et il est sympathique en plus.
Oh, il est sympathique, d'accord, c'est très important, mais... De plus de ça, c'est un garçon qui connaît admirablement son affaire.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais vous dire autre chose. C'est mieux quand ils connaissent.
Oui, oui. Il vaut mieux les choisir comme ça.
Alors, je vous dis, il m'a reçu très gentiment. Quand je suis arrivé, il m'a demandé tout de suite d'ôter mon gant. Ce que j'ai fait. Bah, vous savez, on perd toute pudeur devant ces gens-là. Hein.
Mais je sais bien. Et puis, ils voient tellement de doigts nus. Ils n'y font même plus attention. Ils sont blasés. Un doigt, c'est un doigt pour eux.
Exactement. Hein. Mmh. Et puis, un docteur, c'est un peu comme un confesseur.
Mais certainement. Bon, alors, il vous a consulté sérieusement?
Oui, très, très, très sérieusement. J'y suis resté 4 heures.
Ah oui? On a le temps de faire le tour d'un doigt.
Ah, ça, il m'a bien regardé le doigt sous toutes les coutures. Alors, il a fait marcher dans tous les sens. Il n'y a qu'un arrière qui n'a pas pu le rabattre.
Oui, ben ça, après tout, c'est normal.
Mais c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs.
Hein. Je ne pense pas qu'il fasse s'inquiéter pour ça.
Mais ça ne l'a pas inquiété du tout, hein. Après ça, il m'a mis une serviette sur le doigt parce qu'il a voulu me l'écouter tout de suite.
Hein? Il vous a écouté le doigt?
Il a voulu écouter le petit doigt, oui.
Mais dites donc, c'est bizarre.
Pourquoi ça vous étonne?
Ça me surprend un peu, oui.
Mais pourquoi votre petit doigt ne vous parle jamais à vous?
Oui, il y a très longtemps que ça ne m'est plus arrivé. Ah, j'en ai pas conservé le souvenir.
Ça arrive. Après ça, il a voulu me le faire tousser, mais ça n'a pas marché.
Ah, mais ça m'étonne pas.
Alors finalement, il m'a frappé. 33, avec le bout du doigt. Ouais. Et en voyant ça, il m'a dit, écoutez mon cher ami, à tout hasard, on va faire une radio du rein.
Ah, et cela c'est comment cette histoire d'auriculaire chez Carlin?
Finalement, il m'a fait un mot pour un de ses confrères spécialistes. Ça s'est terminé comme ça.
Plus à l'île de quoi?
Mais de la deuxième phalange.
Oh! Mais alors lui, personnellement, qu'est-ce qu'il fait?
Il ne fait que la première.
Ah, vous ne m'expliquez pas, je ne pouvais pas savoir.
Si!
Mais moi, je croyais qu'il s'occupait de tout le doigt.
Ah non, 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 attendez, c'est très différent, la première, la deuxième phalange.
Quand la deuxième guerre mondiale éclata, le père de Michel Serrault s'est retrouvé mobilisé. Sa mère, chef de la roulotte, craignant que les Allemands n'enrôlent de force ses deux frères aînés, estima urgent d'évacuer la famille. La grand-mère comprise, bien entendu. Direction Argentat, en Corrèze. Sa mère fut obligée de le confier à l'école libre, la communale estimant avoir goûté de ses fantaisies à répétition. Étant été enfant de cœur, le curé d'Argentan le fit aussitôt appeler et il s'est retrouvé à servir la messe dominicale, mais aussi toutes les cérémonies, à commencer par les enterrements. Après la messe, le curé offrait aux enfants de cœur le petit déjeuner au presbytère. Tartines de confiture, de reine Claude, de myrtille, servies dans cette pièce fraîche qui sentait le salpêtre et les meubles bien cirés. De ces moments, il garda le souvenir d'une quiétude et d'une humanité que, toute sa vie, il chercha à retrouver. C'était l'équilibre. C'était une forme de bonheur. C'était la première fois de sa vie qu'il comprit ce que signifie avoir une âme. Cela a contribué à faire grandir en lui ce qu'il faut appeler la foi. Adieu la Corrèze. Sa mère, estimant sans doute que tout danger était écarté, décida le rapatriement à Paris en 1941. Il se fait suffisamment de copains pour que la rue l'emporte sur les obligations scolaires. Toute une bande de jeunes de son âge terrorisés. Il volait chez les commerçants, dans le métro, et jouait au clochard, au poivreau. Et ses frères aînés fréquentaient le lycée. Pour lui, le retard scolaire prenait chaque jour un peu plus d'ampleur. Certificat en poche, il fit un bref passage au cours complémentaire où un père a décelé sa foi naissante, évoqua auprès de ses parents la possibilité de lui faire embrasser une carrière religieuse. C'est ainsi qu'il se trouvera pensionnaire au petit séminaire de Paris. Les espoirs ont pu naître dans sa famille. Son incontrôlable vitalité et son goût permanent de la rigolade allaient enfin trouver à s'assagir et ses dispositions religieuses se transformeraient en une véritable vocation. Son envie d'étudier ne faisait aucun progrès. Le latin et le grec n'évoquaient en lui qu'un horizon d'angoisse et d'ennui. Il rêvassait. Son esprit s'évadait en songeant à la piste Medrano. Le recueillement de la prière le ramenait au cirque. Ses sentiments religieux ne faiblissaient pas, mais son désir de devenir prêtre s'éloignait. Un événement acheva de le convaincre. Dans le métro, près de lui, une jeune fille aux longs cheveux et aux yeux clairs. Il ne pouvait cesser de la regarder tant il la trouvait belle. Était-il amoureux ? C'est sans doute excessif. Il était troublé. Ils se regardèrent, elle rougit, lui sourit. Un seul trajet en métro, un seul regard. Il ne savait pas ce que signifiait engager sa vie. Qu'allait-il faire de l'amour, du désir, de la chair, s'il devenait prêtre ? Il annonça au professeur du petit séminaire qu'il préférait quitter leur maison. « Michel, tu ferais pourtant un bon prêtre, mais tu es paresseux et trop chahuteur. » C'est vrai que les chansons dissonantes qu'il improvisait à l'harmonium, les imitations et toutes les singeries occupaient une bonne partie de ses études. La conclusion était apparue dans la grandiose simplicité. « Michel, tu ferais mieux sur les planches à faire le pitre. » Et voici la suite et la fin du sketch. Le docteur en droit.
C'est compartimenté.
Oui, oui, oui. Alors, il m'a adressé au professeur Lenginski, interne des hôpitaux.
De Paris ?
Non, non, de Varsovie. Ah oui, c'est le seul spécialiste de la deuxième phalange de l'auriculaire en Europe.
Ah ! Vous êtes allé à Varsovie.
Évidemment.
Mais bien sûr, vous ne pouviez pas rester avec ce doigt, ça devenait dangereux.
Exactement, oui. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait le docteur Carlin à son confrère dans une lettre.
Une lettre d'introduction.
C'est ça, il lui donne tous les détails. Je préférais arriver là-bas avec un mot du docteur.
Valait mieux.
Il lui dit dès le départ... Oui, Paris, le 15 juin 1960.
C'est très fouillé.
Et ensuite, il lui dit « Janow Braski Gilabionowicz Troski ».
C'est du polonais ? Il lui écrit en polonais.
Ah, c'est du polonais.
Mais je ne savais pas que Karlin connaissait le polonais. Non, mais c'est une tête.
Janow Brodwiczo Kebrano Pedrowicz. Ben, je vous saute quand même les passages sans intérêt.
Ah oui, oui, oui. Oh, ben, si vous pouvez, hein, j'aimerais autant.
Vita bronias cascina plum auriculare.
Ah, ça y est. Ah, c'est curieux. Oui. Hein. Au bout d'un moment, on arrive à se faire à une langue. Il y a des mots qui vous parviennent subitement.
Oui, mais il lui parle de mon auriculaire.
Oui, je m'en serais douté. Donc, vous êtes guéri. Vous avez un auriculaire merveilleux maintenant.
Il est bien,
hein.
Il est bien.
Ça a dû vous coûter une petite fortune.
Non, mais surtout quand il faut vous se déplacer. Hein.
Mais est-ce que vous avez pu vous faire rembourser par la sécurité sociale ?
Comment ? Mais ils sont obligés d'être assurés. Alors, ils m'ont remboursé sur Paris-Varsovie, Varsovie-Paris.
Oui, sur l'aller-retour.
Bah, pensez donc, ils m'ont remboursé 33 km en troisième classe.
C'est pas mal.
Ah, bah, c'est intéressant.
Je ne pensais même pas qu'ils remboursaient dans ces proportions-là. Ils ont bien relevé les tarifs, non?
Un autre exemple. Oui. Pensez que mon beau-frère qui s'est fait écraser par un rouleau compresseur, ils ont remboursé le rouleau à 80%.
Oh, c'est très beau. Ah, dis, mais estimez-vous heureux, parce que j'aime autant vous dire hein, qu'ils ne font pas ça tout le monde. Et je vous en parle savamment, j'en ai fait l'expérience à mes dépens il y a 3 mois. J'avais acheté pour l'anniversaire de ma femme un bracelet, voyez, un beau bracelet or, enchâssé de diamants et de rubis. Ben, vraiment une belle pièce, hein. J'étais content. Eh bien, j'ai fait des démarches. Et m'ont rien remboursé du tout.
Mais vous aviez une ordonnance.
Ah non, non. Ça, je dois dire franchement, je n'avais pas d'ordonnance. J'avais fait venir le docteur parce que ma femme était patraque depuis un petit moment. Et cet homme m'avait dit, si vous pouvez faire un cadeau à votre femme de temps en temps, ça ne peut être que bon pour son état général, pour son équilibre nerveux. Enfin, c'était vraiment dans mon esprit à la base, hein, un cadeau d'ordre médical. Et ils n'en ont pas tenu compte. Ils m'ont dit « Non, monsieur. »
Non, c'est incroyable.
Hein. Oh, bah, ils ont été assez secs, hein. Même désagréables. Hein.
Il aurait peut-être fallu un petit mot du docteur. Hein. Ah si. Entre nous, je vais vous dire une bonne chose. Vous auriez dû vous faire un certificat de complaisance.
Vers qui ?
Par votre grand-père.
Oh.
Oh, écoutez, bon, pour une fois.
Pour malheureux.
Bah, ça rend service.
Mais c'est pas la question.
Bah, vous ne seriez pas le premier.
Bon, enfin, réfléchissez à ce que vous dites. Hein. Vous savez quel âge il a, mon grand-père ?
Quel âge ?
98 ans.
Non.
Et il y a 15 ans qu'il n'exerce plus. Allons, allons.
Alors, il vit de ses rentes ?
Taisez-vous donc. Il ne vit pas de ses rentes. Il commence une seconde carrière. Alors, une carrière d'écrivain à 98 ans. Vous vous rendez compte de la vitalité des gens de cette génération ?
Là, c'est merveilleux.
Si vous aimez vraiment ce que fait mon grand-père, lisez son chef-d'œuvre. Lisez Plaie et Bosse.
Ouais, je ne connais pas.
Ah, lisez ça, je le recommande à tout le monde. Plaie et Bosse est un bouquin merveilleux. Plaie et Bosse, c'est présenté sous forme de grands dictionnaires, voyez, des mots usuels, c'est-à-dire des maladies dont on peut se servir. Mais alors, l'innovation, c'est qu'il donne non seulement le remède, mais pour la première fois, la manière dont on peut contracter un mal. Vous comprenez ? C'est ça, la nouveauté, c'est ça.
Oh.
Ah, car jusqu'à présent, on attrapait n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Et dans quelles conditions ? On voulait une chose ? On n'avait jamais celle qu'on voulait. Maintenant, vous voulez attraper une maladie, vous ouvrez, il y a un index, vous tombez dessus, c'est épatant. Vous avez par exemple, je vous cite ça au hasard hein, pour vous donner une idée du ton général de l'ouvrage. Comment contracter la fièvre acteuse ? Alors, fièvre acteuse, vivre aux côtés d'une personne ayant déjà la fièvre acteuse, de préférence une vache bien entendu, manger de l'herbe contaminée, ne pas avaler, bien ruminer, hein, attendre la montée du lait, suivre ses prescriptions avec soin. Car la fièvre afteuse est très difficile à contracter par l'homme. Voyez-vous, il ne le cache pas. Et il ne leurre pas le lecteur. Il dit qu'il y a une difficulté à la base. Le traitement peut durer une année ou deux, il le précise aussi. Remède. Consulter un vétérinaire ou se faire abattre. Voir la Villette. Vous n'avez qu'à feuilleter, là. Jetez un œil, parce qu'il y a vraiment tout. Hein. C'est un livre de chevet, c'est un bouquin que l'on doit avoir chez soi. Bah, ça ne vaut pas très cher. 875 francs, plus les taxes locales. 2002 au total. Bon, enfin, c'est abordable.
Hein. Mais on le trouve en librairie.
Ah oui, je vous en ferai envoyer un.
Mais permettez que je jette un coup d'œil.
Mais c'est fait pour.
Comment avoir un or gelé ?
Ah ça ! C'est plus facile à attraper déjà.
Oui, et puis ça fait toujours plaisir.
Oui.
Non, c'est vrai, un petit or gelé.
Oh oui. Faut commencer par des choses simples.
Ouais. Comment avoir un or gelé ? Tremper ses doigts dans le purin.
Lisez. Vous, faut voir un peu l'enchaînement là.
Oui. C'est votre grand-père qui a écrit ça ?
Oui. Vous avez quelque chose à redire ?
C'est pas croyable.
Oh. Je voudrais bien voir ce que vous écrirez, vous, à 98 ans.
Ah ben pour ça, il faut attendre encore un moment. Hein. Tremper ses doigts dans le purin, et puis dans le pétrole, et dans la confiture de myrtille.
C'est la meilleure, la plus corrosive.
La myrtille ?
Ah oui.
Quand le dessous de l'ongle est bien noir, grattez la paupière choisie jusqu'à inflammation complète.
Non, mais vous imaginez les études, les recherches que ça suppose.
Vous voyez ça, je l'ignorais. Hein. L'opération consciencieusement répétée doit aboutir au bout de 3 semaines à la naissance de leur gelée désirée. 3 semaines quand même. Hein.
Ah oui, bah, 3, 4 semaines. Enfin, moi, je compte 4 semaines. Si on veut vraiment le bel orgelet, vous voyez, il faut compter 4 semaines.
Alors, pour faire disparaître, appliquez sur l'œil un cataplasme de farine de moutarde, sur lequel vous aurez eu soin de répandre un demi-verre d'eau de Javel à 100% une goutte d'eau bouillie.
Une goutte, oui. Il ne faut pas abuser de l'eau bouillie.
Alors, laissez sécher et quand l'œil tombe, l'orgelet est guéri.
Voilà.
Merci beaucoup, hein.
Merci à vous, merci Françoise, merci Philippe. On se retrouve dans nos prochaines émissions pour poursuivre la vie et l'œuvre de Jean Poiret et Michel Serrault. Notre émission est maintenant terminée. La citation du jour, le même âge pour un couple, c'est un écart qui ne se rattrape pas. Elle est de Jean Poiret. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes ces informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale, fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone. Allez voir le théâtre amateur. C'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.